Hop là. Et voilà, c'est parti. Tov et Rev Tov les Koulam. Bonsoir Givat, comment ça va? Yofi. Yofi, Yofi. Bon, en attendant de se revoir très bientôt en vrai, on va lancer notre étude de la paracha de Korach. Et en fait, on va reprendre le même schéma qu'on a fait la semaine dernière quand on a étudié la paracha de Shlach. La semaine dernière, on a étudié la paracha de Shlach et on a vu que c'était une réalité qui se reproduisait dans l'histoire. Que très souvent, dès qu'il y a eu une opportunité de sionisme, eh bien, il y a eu des explorateurs des temps modernes qui sont venus et qui ont essayé de nous empêcher de venir en Israël. Eh bien, on va se rendre compte que ce que représente cette paracha de Korach va également se reproduire malheureusement assez souvent dans l'histoire. Et ce qu'on va devoir faire, nous, c'est de comprendre, est-ce qu'il s'agissait véritablement d'une machloket à la Korach ou est-ce que ce n'était pas une machloket à la Korach? C'était une machloket le Shem Shamaim. Et donc, avant de rentrer dans cette revue historique, parce que vous allez voir que c'est assez impressionnant de voir à quel point dans l'histoire eh bien, les choses vont se reproduire, je voudrais d'abord qu'on rentre 2 secondes dans l'histoire de Korach. Korach, toute la paracha, c'est peut-être la seule de toute la Torah qu'on ne peut pas dater. C'est-à-dire que quand tu regardes tous les autres événements de la Torah, tu peux soit au mois près, mais soit des fois et très souvent au jour près, savoir quand ça s'est passé. Il est par exemple dans la paracha de Shlach, eh bien on sait que ça s'est passé le 9 Av de la deuxième année de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que tous les événements de la Torah, tu peux les dater et tu peux surtout savoir quand il s'est passé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a eu avant et qu'est-ce qu'il y a eu après. Alors que la paracha de Korach, tu n'as aucune indication dans le texte qui vient me dire et me renseigner sur le comment, du pourquoi, du quand. C'est pour ça qu'il y a des avis qui mettent Korach après la 40e année. Hein? Tzadik, Katamar, Yifrach. Sofet Tevot, Korach. Oui, et alors? J'entends, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Il va falloir que tu nous expliques, mon cher. Mais, en tout cas, ici, ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas quand ça se passe. Il y a des rabbanim qui vont comprendre l'histoire de Korach dans la 40e année. Il y en a, au contraire, qui vont le voir juste après la sortie d'Égypte. Et on a des arguments, et là, et là. Quand tu lis le Rambam dans Hilchot Yesodei Torah, il semblerait que ça se passe juste après la sortie d'Égypte, avant même Mahamad Arsinaï. Avant même Mahamad Arsinaï. Mais ce n'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a des arguments, et là, et là, et il semblerait que ce soit volontaire qu'on ne sache pas quand ça se passe. Pourquoi c'est volontaire? Eh bien, que tu saches que c'est une réalité qui peut avoir lieu tout le temps. Mais c'est quoi cette réalité de Korach? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Le fait qu'il y ait des machlokot, le fait que tout le monde ne soit pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que d'un coup tout le monde n'est pas d'accord ou qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord que ça fait de nous 2 identités différentes. En quoi Korach ça a été quelque chose de si particulier? Eh bien, vous savez bien une chose, s'il y a bien un événement, un élément, qui est difficile à atteindre pour le peuple juif, eh bien, c'est ce qu'on scande le plus. Vous savez que Am Israël, 2 fois par jour, sinon pas 3, eh bien, crie Be'ahava, Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que l'idéal du peuple juif, c'est bel et bien la Achdout. Il a fait merde. Mais si c'est ça l'idéal du peuple juif, eh bien c'est la preuve que c'est ce qui nous manque. Je cite ici un verset du livre de Yirmiyahou au chapitre 2, verset 10. Nous dit Jérémie, Ki ivru yekitim uru, vekedar shilchu veitbonanu, meod, uru, en haïta kazot, haemir goy Elohim vehem lo Elohim. Va ami emir et kevodo belo yoil. Yirmiyahou vient dans une torrecha au peuple juif et dit, regardez, les gens qui habitent à Kittim et les Kedarim, qui sont deux peuples idolâtres, il dit, eux, ils n'ont pas abandonné leur Dieu, alors que leur Dieu, c'est des bêtises. Mais vous qui avez le vrai Dieu, moi, vous m'avez abandonné. Donc ça, c'est la remontrance dans Yirmiyahou. Mais la Gemara, dans le traité de Ta'anit, va s'appuyer sur ce verset pour expliquer quelque chose. Il dit, mais c'est quoi le dieu principal des Kittim? Eh bien, on dit, c'est le feu. Alors que le dieu principal des Kedarim, c'est l'eau. Or, Kittim, c'est un endroit, ils vivent dans un endroit où il y a plein d'eau. Et donc, ce qu'ils n'ont pas, ils le mettent comme étant leur dieu principal. Kedar, qui viennent du désert, eh bien, ils mettent l'eau comme étant leur élément principal. Donc, si nous, dans le peuple juif, notre élément central, c'est Shema Israël Hashem Elenu Hashem Chad, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est notre idéal, donc c'est ce qui nous manque. Et effectivement, la machloket est une tendance générale, j'ai envie de dire, de l'identité d'Israël. Ça nous embête d'être d'accord les uns avec les autres. Mais ce n'est pas une blague. Vous savez, Rabbi Yochanan, il avait une chavruta qui s'appelait Resh Lakish. Et Resh Lakish, quand il est décédé, alors on a donné une nouvelle chavruta à Rabbi Yochanan, qui s'appelait Rabbi Elazar. Le seul problème, c'est que Resh Lakish n'était jamais d'accord avec Rabbi Yochanan. Et c'est ce qui maintenait leur couple de chavruta ensemble. Rabbi Elazar, à chaque fois que Rabbi Yochanan disait un truc, Rabbi Elazar, il expliquait pourquoi Rabbi Yochanan avait raison. J'en étais tout le temps d'accord avec lui. Et Rabbi Yochanan est rentré en dépression à cause de ça. Il a dit, tu ne me sers à rien. J'ai pas besoin d'avoir un mec qui est d'accord avec moi. Donc, la machloket, c'est une partie inhérente du peuple juif. Mais il y a machloket et machloket, évidemment. Il y a machloket qui fait qu'on n'est pas d'accord, mais on parle le même langage. Et il y a machloket où on ne parle plus le même langage. Qu'est-ce que je veux dire par là? À un moment donné, dans la Torah, dans notre parasha, je vous cite dans le livre de Bamidbar, au chapitre donc Tet Zayin, au verset Tet Vav jusqu'au verset Kafbet. Regardez ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit comme ça. Vayichar zera Moshe meod. Moshe s'est énervé. Vayomer el Hashem, al tefen el minchatam. Donc on est, une fois que, ça y est, les deux camps, le camp de Korach et le camp de Moshe, se sont bien démarqués l'un de l'autre, et il y a une espèce de compète qui a été mis en place. Genre, nous, on va amener une mincha à Dieu, vous avez qu'à amener une mincha aussi, une offrande à Dieu, et on verra qui Dieu accepte. Et là, Moshe, il dit à Dieu, surtout ne les accepte pas. Pourquoi tu t'excites comme ça? Lo chamor echad mehem nasati, velo areoti et ha'am haze, et ha'chatzera, velo areoti et echad mehem. Vayomer Hashem, Ezra, je continue. Vayomer Moshe el Korach, ata vechol adatcha, היו לפני השם, אתה והם ואהרון מחר. וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם כתורת. Donc, dit, voilà, demain, vous allez chacun prendre votre pelle à encens, vous allez mettre de l'encens dessus, et yalla. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit la chose suivante. Je reprends le verset Yutet. Vaikael alehem korach et kol haeda. El petacho el moed, vayera kvod Hashem et kol haeda. Et à ce moment-là, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et bien, il va yidaber Hashem el Moshe ve el Aaron, ibadelu mitoch haeda zot, ve'achale otam keraga. Je vais tous les éclater, dit Dieu. Et à ce moment-là, va yiplu al penehem Moshe ve Aaron, et ils ont dit, el Elohe aruchot lechol basar, aish echad yecheta, ve'al kol haeda tiktsof. C'est-à-dire que Dieu, il dit à Moshe, bon, c'est un classique, Dieu, il dit à Moshe, yala, je vais tous les éclater. Et ils m'ont saoulé, les gens de Korach, je vais tous les éclater. Mais il dit, je vais éclater toute cette Eda, c'est-à-dire tout le peuple. Et Moshe, il dit une phrase qui est bizarre. Il dit, comment ça? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde doit prendre. Et la réponse que moi, je donnerais à Moshe, c'est, mais c'est quoi cette question? C'est quoi cet argument pourri? Oui! Dans le judaïsme, si quelqu'un a fauté, tout le monde prend. Mais c'est une des bases du judaïsme que Kol Israël a révimé et basé. C'est-à-dire qu'on a une dimension d'autoresponsabilité les uns avec les autres. C'est ça le judaïsme. D'ailleurs, quand on regarde le livre de Yoshua, on va voir qu'il y a un moment donné un bonhomme qui s'appelle Achan qui va tout simplement piller la ville de Jéricho alors qu'il n'avait pas le droit. Eh bien, on voit que parce qu'il y en a un qui a fauté, eh bien, on va perdre la guerre suivante contre Ai. Donc, tu vois bien que oui, Ai Shecha Diecheta, et on prend tous pour ça. C'est comme ça dans le judaïsme. D'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi Yonatan Ai Beshitz, il disait il y a 200 ans, non, 300 ans peut-être, Rabbi Yonatan Ai Beshitz, il y a 300 ans, il disait, si tu vois quelqu'un dans la rue qui est rasé, tu dois, toi, considérer que tu n'as qu'une demi-barbe. Bon, à l'époque, avoir la barbe, ça montrait l'appartenance à la Torah, et les gens qui étaient rasés, c'est qu'ils s'étaient assimilés. Il dit, crois pas que le mec qui s'est assimilé, c'est juste de sa faute. T'es responsable, toi aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que cet argument de Moshe ? Quoi ? Parce qu'il y en a un qui a fauté, alors tout le monde prend ? Et bien, la réponse est donnée par Baal HaAkedat Yitzhak. Baal HaAkedat Yitzhak, dans la paracha de Korach, nous dit la chose suivante. Je cite. Aïch echad yecheta val kol haedat iktsof. Donc ça, c'est le verset qu'on a dit, parce qu'il y en a un qui a fauté, tout le monde va prendre. Umat miyazo. Et pourquoi Moshe, il est étonné? Valo ba'egel lochatu kulam. Venehemar anichali. Vechen bashitim. Vechen be'achan. C'est-à-dire que Baal HaAkedat, il donne plus d'exemples que moi. Moi, j'ai juste parlé de Achan. Mais il te dit, dans le Vaudor, c'est ce qui s'est passé. Dans le Shittim, c'est ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est tous unis. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'y en a qu'un qui a fauté? Pas du tout. Et yoto al yachas aklalut ha'adam im chalakav ki acholé be'echad me'evarav yomar al kulo shehu cholé. Il dit, bah oui, un mec qui est malade. Ok, un mec qui est malade et qui je sais pas moi, il a mal au ventre. Il dit, je suis malade. Complètement malade. Et il le crie même. Mais il dit pas, mon ventre est malade. Quand t'as mal au bras, bah, c'est toi qui es blessé. C'est pas mon pied qui est blessé, c'est toi qui es blessé. En d'autres termes, nous dit Baal HaAkedat, qu'est-ce que c'est que cette différenciation? Qui a cholé ve'echad me'evarav yomar al kulo shehu cholé. Kasher amida liktsof al kol haklal bechet hayachid ke'achan vezulato. Hine. Ah, nous dit le Baal HaAkedat. Oui, mais toute cette histoire qu'on est tous reliés, elle n'est vraie qu'à un moment. Quel moment? Bah, au moment où on est effectivement tous ensemble, où on fait effectivement tous partie d'un même groupe. Mais si on ne fait plus partie d'un même groupe, s'il y a des gens qui se sont détachés du groupe, ah ben, tant pis pour eux, maintenant ils sont détachés du groupe. Et c'est ce qu'il dit ici. Il nous dit Ki az lo yomar shechata ishaou levado ela shechata aklal. Omnam kaasher achote u poresh atzmo min aklal, kvar yatsa miklalam. Il dit Baal HaAkedat Yitzhak, mais si le fauteur s'est détaché du peuple juif, ou poresh min atzibour, ben c'est où? Zéou, à ce moment-là, il est tout seul, le mec. Il est responsable de ses actes et je n'ai plus aucun rapport avec lui. Korach, son problème, ce n'est pas qu'il était en machloket. On peut être en machloket. Et on a parlé dans les années précédentes de quelle était l'erreur de sa machloket. Seder, c'est une erreur de machloket et lui, il pense « Kola eda kulam kedoshim ». Seder. Mais c'est Seder d'avoir une machloket. La question est de savoir, est-ce que tu viens... Est-ce que tu viens mitor Aeda ou est-ce que tu as déjà ton peuple à toi? Tu t'es fait une équipe face à une autre équipe. Le tout début de la paracha nous dit la chose suivante. Vaikar Korach. Mazé Vaikar Korach. On nous dit Vaikar. Pourquoi est-ce qu'on dit Vaikar Korach? Ben Itzar, Ben Kehad, Ben Levi, Ben Datan, Ben Aviram, Ben Eliav, Ben Bon, Ben Pelet, Ben Reuven. Mazé Vaikar. Nous dit Onkelus, quand il traduit ce verset, comment est-ce qu'il va traduire Vaikar? Il ne traduit pas comme il faudrait traduire en araméen Vaikar. Il traduit Ve it pelig korach. C'est quoi it pelig? Il a fait une miflaga. Il a fait un nouveau peuple. Il avait son équipe. En fait, quand il vient dire à Moshe toutes ces ta'anotes, il s'en fiche que Moshe il accepte ou pas. Soit il accepte Kolakavod et c'est moi qui deviens le chef, soit il n'accepte pas, il n'y a pas de problème. J'ai mes hommes à moi. J'ai mes hommes à moi et j'en fais eh bien, une nouvelle identité. Et là, je voudrais vous montrer une image que, évidemment, j'ai oublié de préparer. Donc, je vais vous demander 9 secondes pour que j'aille la chercher. Ça y est, je suis revenu. Et voilà, suspense. Alors, Jurassic Park me dit, il a endoctriné les gens. Je ne sais pas s'il a endoctriné les gens. Peut-être que malheureusement, il y a pas mal de gens qui étaient aussi volontaires de quitter le peuple juif. Mais le fait est que le groupe de Korach, c'était le groupe de Korach. Alors, la vérité, c'est que je ne pense pas ce que je dis. C'est-à-dire que la majorité des gens qui suivaient Korach ne le suivaient pas pour les mêmes raisons que lui, il avait décidé de faire sa marloquette. Non, l'image que je veux vous montrer, c'est la suivante. Vous connaissez tous très bien, dans 2 secondes je vous montre, voilà. Voilà. J'imagine que vous connaissez tous très très bien cette image. Alors je la montre à YouTube et je la montre à Gypsy. Vous reconnaissez ce village gaulois ? Ouais, vous connaissez ou vous ne connaissez pas ce village gaulois ? Je vais vous trouver une image un petit peu plus éclairée, pas dans le banquet de fin. Voilà, voilà, voilà. Tu connais ce village gaulois ? C'est bon ? Là, c'est clair ? Pareil pour ici. Vous connaissez tous ce village gaulois qui se dispute toute la journée ? Eh bien, on peut dire qu'ils sont en marloquette. Ah, ils sont en marloquette pas mal. Mais c'est une marloquette, les Shem Shamaim. Par opposition à cet autre village gaulois qui ressemble beaucoup au village que nous connaissons, mais qui a une petite différence. C'est quoi cette différence? Attendez, je vous montre. Et bien voilà. Ce village gaulois a un grand fossé au milieu. Nous sommes dans l'album qui s'appelle « Le Grand Fossé ». Bien sûr, pour les intimes. Eh bien, dans cet album, quelle est la différence entre le village gaulois qui se met les uns sur les autres à chaque épisode et le village du Grand Fossé ? Eh bien, dans le village du Grand Fossé, Rabotai, on a fait 2 villages. On a fait 2 villages, si bien que le texte nous dit, dans les saintes écritures d'Astérix, qu'on a choisi 2 chefs. 2 chefs parce que maintenant, il n'y a plus un seul village, il y a 2 villages. Ségrégation. Exactement, je vois qu'il y a un certain niveau de connaissance qui n'est pas pour me déplaire.
Il y en a qui suivent.
Ben, c'est ça. Maintenant, toute la question est de savoir, ben voilà ce qui s'est passé. Manitou disait que Korach est la préfiguration du christianisme, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc justement, on va y revenir. Donc, Korach, le grand problème, c'est qu'il se crée une alternative au peuple juif. Et ce qu'on va faire maintenant, avant de conclure et de revenir à Korach à la fin de notre histoire, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est, bah, que, comme je vous ai dit, comme la semaine dernière, eh bien, on va passer l'histoire en revue et on va voir qu'il y a eu, dans l'histoire juive, et d'ailleurs, de manière, je ne pensais pas à ça quand j'ai préparé le cours, mais quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'en fait, les périodes sont tout à fait correspondantes eh bien, aux périodes que j'ai évoquées la semaine dernière quant aux différents épisodes des Meraglim. Et ça, il faudrait réfléchir pourquoi est-ce que c'est tellement correspondant. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grandes périodes sont marquées là. 8 grandes périodes de Piloug dans le peuple juif. Et il va falloir qu'on décide, est-ce que ce sont des périodes Korach ou est-ce que ce sont des périodes Machloket Leshem Shamayim. Alors la première, évidemment, après l'histoire de Korach, évidemment, c'est bah, Piloug à Mamlacha. Il n'y a pas de plus grand Piloug que lorsqu'il y a eu eh bien, la séparation du royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Yehuda. Ça, c'est du Piloug, la Méhadrine. Seulement, est-ce que ce Piloug-là devient Korachite ? Est-ce qu'il s'agit de créer deux nouveaux peuples ? Ou est-ce qu'on garde la dimension du peuple juif ? De l'unité ? Eh bien, en fait, on a failli tomber dans le korachisme et on en a été sauvé. Si on suit ce qui a marqué dans le Tanakh, dans le Livre des Rois, d'un côté, c'est Achia Shiloni qui demande au nom de Dieu à Yerovam de faire la séparation entre les deux royaumes. Mais Yerovam va tout faire pour qu'il n'y ait plus de contact entre les deux royaumes. En créant ces Agalim, ces Vaudor à Bethel et à Dan, il veut complètement scinder les deux peuples. Il veut en faire deux identités. Il veut faire le peuple d'Israël face au peuple de Yehuda. Ça a marché, cette scission korathienne, je ne sais pas comment on va l'appeler, ça a marché pendant toute la vie de Yérovam. Heureusement qu'est arrivé son fils. Alors son fils n'était pas un grand sadique, hein, évidemment il s'appelle Avia ben Yérovam, c'était pas un grand grand sadique, c'était même un grand grand pas sadique, mais il a fait une chose bien dans sa vie. Il a enlevé l'interdit qu'avaient les Juifs du Nord d'aller à Jérusalem s'ils le veulent. Sous le règne de son père, Yérovam, eh bien les Juifs du Nord n'avaient pas le droit, il y avait des gardes de royaux qui étaient mis sur le chemin, et les Juifs n'avaient pas le droit d'arriver à Jérusalem. Avia ben Yérovam va annuler directement cette restriction. Et de ce fait, eh bien, malgré les deux royaumes, eh bien, on va quand même garder cette dimension d'unité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours le Beth Amikdash et Jérusalem. Sauf qu'il y a eu un autre moment où on a failli se scinder également, où on s'est scindé concrètement, mais pas à cause de nous. C'est ce qu'on appelle Galout Aseret Hashvatim. Lorsque Sanhérib est venu détruire le royaume du Nord et qu'il a amené les 10 tribus du Nord en exil, bah de facto, on s'est séparés, quoi. Seulement, on a eu la chance que le roi de Jérusalem, à ce moment-là, s'appelait Chizkiyahou et qu'il a ouvert les portes pour tous les réfugiés du Nord. Si bien qu'il y a, oui, actuellement, peut-être, des descendants de Zvouloun, de Hacher, de Issachar, qui se baladent parmi le peuple juif, qui sont ces descendants de ces juifs qui ont fui la destruction et qui sont venus se réfugier à Jérusalem. Donc la première piloug, ce n'est pas un piloug korachien, c'est un piloug l'Echem Shamaim. Et quel est l'intérêt de ce piloug-là? Parce qu'on a bien compris que les pilougim qui ont amené à Korach, ce n'est pas bien, mais les pilougim qui sont l'Echem Shamaim, c'est pour amener à une compréhension plus profonde. Qu'est-ce que nous amène la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda? Eh bien, tout simplement, en ce cas, c'est la volonté même de Dieu, il n'y avait pas ou presque de libre arbitre. Tu as raison, Alex, c'était la volonté de Dieu qu'il y ait un piloug. C'était pas la volonté de Dieu qu'on empêche les gens d'avoir quand même un contact les uns avec les autres. La preuve, c'est que pour faire le piloug, Yérovam, il n'a pas eu de problème de demander à Achia Shiloni. Alors que quand il a fait ses agalim et ses interdits, il n'a pas demandé à Achia Shiloni. Donc tu vois que les interdits, eux, n'étaient pas la volonté du Créateur, c'était le libre arbitre de Yérovam ben Nevat. Donc qu'est-ce qu'a amené le piloug à Mamlacha? Eh bien, il a amené qu'on a développé dans le peuple juif ces deux dimensions que Manitou va très souvent expliquer, qui s'appellent Yehuda et Ephraim. Yehuda au sud, qui est plus la dimension du Kodesh, alors que Ephraim est plus la dimension de Kdushat Teva. Le rôle de l'individu au sein du klal, car sous Shlomo, le klal était fort, mais l'individu souffrait. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais là, ça n'a rien à voir. Le klal, il n'a pas de libre arbitre. L'individu, il en a. Ok ? Mais qui te sourd ? Tout ça pour dire que la dimension de Yehuda, qui est ce qu'on appelle, dans le langage du Rav Kook, à Kodesh Aragil, les religes, et la dimension de Ephraim, qui est la dimension de Kdushat Teva, la nation et l'attachement à la terre. Eh bien, c'était fondamental de développer ces deux identités. Et c'est pour ça qu'il y avait fallu le Pilug à Mamlacha. Après cela, il va y avoir un autre Pilug. On est après le retour des Juifs, après la destruction du premier temple. Les Juifs sont revenus. Et à l'époque grecque, va commencer une nouvelle dispute. Une nouvelle dispute par rapport à quoi ? Eh bien, par rapport à la question du Olam Haba. Aïm yesh Olam Haba ? O ein Olam Haba ? Ma atem omrim ? Yesh ? Bah, a priori, yesh. Kol Israël yesh lahem chelek l'Olam Haba, c'est marqué dans la Mishnah. Donc, a priori, yesh. Mais le problème, c'est que c'est marqué nulle part dans la Torah. Donc, ça va amener des juifs, tzadikim, à se rebeller contre leur maître. Leur maître en question s'appelle Antigonos Ish Socho. On se rappelle la Mishnah de Pirkei Avot. Et Antigonos Ish Socho, il va dire Al tiyuka avadim ameshamshim et arav al menat lekabel pras. אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ואם הורה שמיים עליכם, מסיל דיסה, זה כאילו ידיע הפרס. Et donc ce פרס, c'est le עולם הבא. Deux élèves. Oui? נכון? Dans la Torah? Mais bien sûr, dans la Torah, on nous promet que si on fait bien, on aura gashmiut. C'est pour ça qu'ils te disent quand Antigonos, tout d'un coup, il se met à parler du Olam Haba, ben ses élèves, ils disent, allô, d'où tu sors ça ? D'où tu sors ça ? C'est de la réforme, tu es un réformé, Rabbi. Et donc, les deux élèves, les deux premiers élèves d'Antigonos, qui s'appellent Tzadok et Baitos, eh bien, vont se rebeller et vont créer deux groupes qui, en fait, n'en sont qu'un, qui sont les Tzdukim et les Baitusim, les Sadducéens. Eh bien, d'où ça vient les Tzdukim ? Ça vient de là, sur la question du Olam Haba. Tzdukim vont se battre contre Prouchim. Les Prouchim, c'est nous, c'est les rabbins, c'est le peuple juif. Et les Tzdukim, ça va être donc les élèves de Tzadok. Les Tzdukim vont arrêter de, enfin, vont arrêter. Ils ne croient pas dans le Olam Haba. Ils ne croient pas dans Hisharut HaNefesh, dans le fait que l'âme continue. Ils ont un vrai problème à ce niveau-là. Et donc, eh bien, on va se rendre compte, et on le connaît, dans la Gemara, on en voit plein, des machlokot qu'on a avec les Tzdukim. Est-ce que la machloket avec les Tzdukim est une machloket légitime? Ou c'est une machloquette de Korach qui veut nous séparer. C'est une bonne question, ça. Ben, je vais vous dire, comment est-ce qu'on sait qu'une machloquette est korachienne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter et que ça va amener à une scission globale, ou est-ce que c'est une machloquette qui peut être une vraie machloquette? Baitos et Tzadok. Oui, par exemple, la machloket sur Machloket Shabbat, exactement. Oui ?
Ça a duré dans le temps ?
Non.
Quoi ?
Non, c'est pas la durée dans le temps qui fait qu'elle est... Pardon ?
Je ne fais plus partie du peuple juif, les Tzadokim.
Oui, ça, tu as raison. Mais est-ce que c'est à cause de la machloket ?
Ça faisait partie d'un clan qui ne regardait pas la Torah chez Baal-Pé comme un décor de ses formes.
Et donc, c'est parce qu'ils ne regardaient pas, tu as raison, ils n'acceptaient pas la Torah Shebe Alpé. Mais parce qu'ils n'acceptent pas la Torah Shebe Alpé, alors ils sont sortis du clan d'Israël?
C'est ce que j'avais cru comprendre, ouais.
La machloquette entre Baitoussim, Tsukim et Prouchim est une machloquette qui, à la base, est légitime. Pourquoi? Comment on sait qu'une machloquette est légitime ou pas? Si on a le même langage. C'est-à-dire que si on admet les mêmes principes et que à partir de ces principes-là, on n'est pas d'accord. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple, que tu comprennes bien de quoi il s'agit. J'ai donné un cours, il n'y a pas si longtemps, vous l'avez entendu aussi, si elle n'est pas tranchée, sauf un, les KM. Non. C'est pas que, est-ce que la marloquette, elle est tranchée ou pas tranchée? Regardez, je vais vous expliquer. Il n'y a pas longtemps, à l'Akba Omer, j'ai fait un cours sur l'Akba Omer. Bon, vous connaissez ce que je pense de l'Akba Omer, les élèves de Rabbi Akiva, qui étaient dans la guerre de Bar Korba, tout ça, tout ça. Bon, alors j'ai donné le cours à Givat, mais j'ai donné aussi un cours sur Zoom à la communauté israélite de Metz. Ma communauté mère de là d'où je viens, là-bas en France. Et il y avait pas mal de participants, d'ailleurs j'étais assez étonné. Et alors c'est sur Zoom, donc tu as plein de gens, comme sur GT, tu vois. Il y a des gens qui montent leur tête et puis il y a des gens qui ne montent pas leur tête. Et tu ne vois pas forcément leur nom non plus. Des fois, il y a juste une lettre, machin. Donc, je n'ai pas fait attention à tout le monde, à toutes les personnes qu'il y avait. Le lendemain, je reçois un mail de mon oncle, qui est le rabbin de la communauté, et qui me dit, est-ce que tu as fait attention qu'il y avait un tel, je ne vais pas dire son nom, qui était dans le cours? Alors, je dis, ah non, je ne savais pas. Il dit, bah voilà, il m'a envoyé un mail avec tous les... Enfin, il n'est pas du tout d'accord avec ce que tu as dit, évidemment. En l'occurrence, on parle d'un garçon avec qui j'ai grandi et qui est devenu Hassid Satmar. Donc, autant te dire qu'il n'est pas fan de ce que les sionistes, ils ont à dire. Et donc, il a envoyé un grand mail en disant tous les endroits où il n'était pas d'accord. Avec des références toraniques à l'appui, quoi. Donc, il m'a transféré le mail et j'ai répondu à tous les arguments qui ont été donnés, les contre-arguments qui ont été donnés. Maintenant, ça, c'est une marloquette, Beseder Gamour. Parce qu'il m'a dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire que les élèves de Rabbi Akiva étaient dans l'armée de Bar Korba? Arrête le Ritva et dit quelque chose d'autre. Ça, c'est un argument qui est recevable. Alors moi, je lui ai répondu, oui, bien sûr que le Ritva, il a dit ça, mais regarde ce que dit le Meiri par rapport à ce qui est dit, et regarde ce que dit après le Baal Aruch HaShulchan par rapport à truc, et ça répond à cela. Je te vois fermer les yeux.
Oui, parce que ce que tu dis, en fait, ça veut dire qu'en fait, vous restez tous les deux dans le même domaine, de la Talmidei Chachamim.
Exactement. Attends, dans deux secondes, j'arrive au Tzoukim. Deux secondes. Juste donne-moi deux secondes.
Oui. Ça c'est
une bonne question. Tu dis, je parle du même langage, mais Korach, il a parlé le même langage. Alors, quand je parle de langage, je ne parle pas forcément des mots qui sont utilisés. Ce que je veux dire par le même langage, c'est justement quand j'ai dit que Korach, il y a marqué Veikar Korach, et que Onkelou s'est dit Veitpelig Korach, on a déjà arrêté le langage. C'est-à-dire que Korach, il a son équipe face à l'équipe de Moshe. C'est-à-dire qu'il a fait, si tu veux, une scission interne. Maintenant, sa scission, elle n'est pas encore officielle. Parce que si, au final, c'est lui qui gagne dans le débat contre Moshe, tout le monde va se rattacher à lui. Donc, sa scission, elle n'est pas encore officielle. Mais au final, sa scission, elle est, moi, j'ai mon idée. Et soit tu es d'accord, soit je m'en vais. Et puis, je fais mon peuple. Maintenant, pour revenir à mon exemple, juste pour que tu comprennes bien de quoi je parle, donc, j'ai donné des arguments à ces arguments. Il m'a répondu avec d'autres arguments et je lui ai re-répondu à ces arguments de contre-arguments par d'autres arguments. Il n'avait plus rien à dire à un moment donné et donc, il a commencé à me sortir des jokers pas légitimes. À savoir, ouais, mais tu ne peux pas citer le Rav Kook comme argument. Je lui ai dit, pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas citer le Rav Kook comme argument? Ce n'est pas un Talmid Chacham? Il ne fait pas partie de la lignée des rabbins depuis des générations jusqu'à Moshe? Il n'a pas été reconnu par ses pairs et par ses contemporains comme étant le Gdolador, ou même pas Gdolador, mais comme étant un rabbin digne de Rabbanout. Et à partir du moment où il me dit « Non, mais les rabbins sionistes, il ne faut pas les écouter parce que c'est le Satan. » Voilà, je te dis ça comme ça. Parce que le rabbi de Sotmer, il a dit que il reprend, en fait, le rabbi de Sotmer actuel, il faut savoir un truc, hein, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, mais que le rabbi de Sotmer, il était très copain avec Reb Elchanan Wasserman, qui au début étaient les antisionistes fondamentaux. Maintenant, pour Reb Elchanan Wasserman, il écrit dans le livre Kovetz Ma'amarim, alors ça fait un peu mal ce que je vais dire, mais bon, il faut savoir que c'est marqué quelque part quand même, il écrit dans son livre que le sionisme, c'est de la Avodah Zara. C'est Mamash, il dit, Mamash, lui pour lui, c'est Din Avodah Zara Mamash. Alors, on lui a posé la question, mais alors, qu'est-ce qui se passe avec les sionistes religieux? Eh bien, il dit que c'est Avodah Zara Beshitouf. Comme les chrétiens, quoi. C'est violent, quand même, comme histoire. Donc, à partir du moment où, si tu veux, mon copain, il me dit, non, mais de toute façon, les rabbins sionistes, ce n'est pas des arguments parce que c'est des idolâtres. C'est des réchaïm et des idolâtres qui veulent faire fauter le peuple juif. Ben, c'est terminé, on ne peut plus discuter. Donc, c'est ça que je veux dire par « on a le même langage ». C'est-à-dire que si on a le postulat de départ qui est le même, qu'on se bat dans notre compréhension de la Torah, mais celui qui est accepté comme étant eh bien, légitime au niveau du judaïsme, eh bien, c'est un argument. Il va falloir le contrer si tu as envie de le contrer. Les tzdoukim, au départ, ne se revendiquent pas comme étant « michoutz le chercheret adorot ». Ils se voient comme étant les vrais successeurs de Anshe Knesset Agdola. Puisqu'ils disent, vous, les rabbins de maintenant, Antigonos, Yosef ben Yoezer, Yosef ben Yochanan, vous êtes en train de faire une réforme. Vous êtes en train de dire des choses qu'on n'a jamais dit dans le judaïsme. Si eux, les tzedukim, ils se voient comme Haredim. OK? Donc, qu'est-ce qui a fait que finalement, ils ont disparu? C'est la metziout qui a fait qu'ils ont disparu. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ont été exclus du peuple juif, c'est que les tzdoukim à 90% c'était des kohanim, et qu'à partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, en laem kloum. Et donc, eh bien, tout simplement, ils ont disparu. OK ? Sans savoir vraiment si on avait gagné au niveau des idées. Alors, tu peux me dire aussi, ouais, mais ça, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que dans l'histoire avance, et que l'histoire avance par les Prouchim et pas par les Tzdoukim. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne me permettrai pas de dire que les Tzdoukim, c'est Korach. Ils ont tort, on n'est pas d'accord avec eux, mais ce n'est pas encore je veux me scinder. Par contre, la scission qui vient après, là, ouais, là, c'est Korach. Et c'est quoi la scission qui vient après? C'est Pashut. Yehudim contre Notzrim. Et je tiens à rappeler ici à tout le monde, vous le savez, que les premiers chrétiens sont tous juifs. C'est tous des juifs, les premiers chrétiens. Ils ont changé leur nom, machin, mais c'est tous des juifs. Et je vais dire mieux que ça. Pendant les... Qui c'est qui dit bonjour à ma fille qui vient de se réveiller? Bonjour! Dis bonjour? Bonjour! Coucou! Coucou! Dis bonjour à tous! Et donc, les Notzrim, au départ, pendant les 40 premières années après la mort de... Tu ne peux pas savoir qu'ils sont chrétiens. C'est pas avec maman. Hop là. C'est-à-dire quand tu regardes un chrétien dans la rue, en l'an 60, okay, en l'an 60 de notre ère, c'est-à-dire 30 ans à peu près après la mort de Jésus, tu vois un de ces talmidim dans la rue, est-ce que tu peux faire la différence entre lui et un autre juif? Non! Il fait les mêmes, il fait autant la Torah que n'importe quel juif, machin, pas de problème. Il a juste des problèmes au niveau de sa croyance. Alors, il ne croit pas encore que Jésus, c'est le Fils de Dieu, parce que ça, ça viendra beaucoup plus tard, mais il croit, un, que Jésus, c'est le Mashiach. Bon, erreur, mais ce n'est pas parce que quelqu'un fait une erreur que tu le sors du peuple juif. Et il a aussi des problèmes au niveau de ce que représente pour lui maintenant le judaïsme, qui ne doit que se concentrer sur le spirituel et pas sur le matériel. Mais là encore, bien que ce ne soit pas juif comme idée, ça ne mérite pas de te faire sortir du peuple juif. Quand est-ce que les chrétiens vont être sortis du peuple juif, mamash, qu'ils ont décidé de devenir une autre identité? Eh bien, c'est là encore beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, une centaine d'années plus tard, après la mort de Jésus, lorsque les chrétiens vont décider de prêter main forte aux Romains dans la guerre de Bar Corva. Comment prêter main forte? Ils ne vont pas s'engager dans la Légion, mais ils vont commencer à devenir des balances, à dire où les Juifs se cachent. Et à partir de ce moment-là, Rabban Gamliel, qui est le Nassi à Sanhedrin, décide de mettre en place Birkat Aminim. Et Birkat Aminim, eh bien, elle est... Attends deux secondes, je reviens sur les essais dans deux secondes. Birkat Aminim, en fait, à la base, elle est contre les chrétiens. C'est ce qu'on a retrouvé dans le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, où la censure chrétienne n'était pas passée par là. Et là-bas, il y a marqué tout simplement, dans le texte de Birkat Aminim, on dit « La minim, la notrim, ve la meshumadim, al teitikva ». Donc les choses sont claires là-bas. Et donc, si tu veux, eh bien, lorsque tu décides de briser la solidarité nationale, donc de te mettre du côté de l'ennemi, alors à ce moment-là, tu as fait ton équipe et tu t'es sorti de l'équipe normale d'Israël. Et donc, les chrétiens vont, à partir de ce moment-là, devenir Korach, à savoir, eh bien, une sortie complète du peuple juif, une alternative dans l'erreur à ce que pouvait être le Ham Israël. Alors, je reviens juste sur ta question. Et les Esséniens, c'est Korach ou Machloket, George Zoukim? Les Esséniens, c'est Shum Davar. Voilà. Tu poses la question, les Esséniens, c'est Shum Kloum. C'est peut-être une centaine de personnes, et je suis très très sympa avec eux quand je dis une centaine de personnes, et ça a tenu un tout petit peu de temps, et c'est des gens qui ont pété un câble complètement. Donc si tu veux, c'est oui comme Korach, mais c'est tellement petit que ça ne mérite même pas vraiment de s'y intéresser. Les Esséniens, ce qu'on appelle la secte de la mer morte, Zélo Retzini. C'est-à-dire, ils n'ont pas vraiment laissé d'empreinte, machin, sauf que ils ont quand même laissé, grâce à eux, un film extraordinaire du cinéma. C'est-à-dire, c'est quand même grâce aux Esséniens qu'on a un des plus beaux films d'aventure qui ait jamais été créé. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais pas beaucoup. Vous savez de quel film je parle? Non? Vous voulez savoir? Ellie, tu veux savoir de quel film je parle?
Oui.
Alors, je te dis. Alors, je vais te dire. Mais tu le dis à personne. Les Esséniens, ils écrivaient plein de trucs. C'est eux qui ont écrit les rouleaux de la mer morte. Maintenant, ils ont écrit plein de choses. Donc, ils ont écrit le Tanakh, ils ont recopié le Tanakh. Ils ont écrit aussi des livres relatant leurs règles à eux dans leur secte. Et ils ont écrit aussi des livres après... Sfarim Ritzonim. Bon, l'homme chané. Maintenant, tous ces livres-là, ils les ont écrits sur des parchemins ou sur des morceaux d'argile, mais particulièrement sur des parchemins. Mais ils ont écrit un texte sur un rouleau de cuivre. Et ce rouleau de cuivre, il a été découvert beaucoup plus tard. Apocryphe, merci beaucoup pour le... Merci beaucoup, je n'avais pas le terme en français. Ils ont écrit un texte sur un rouleau de cuivre. Donc, c'est un texte qui était très important pour eux, parce que rouleau de cuivre, c'est pas donné. Et donc, on y va. Ce texte a été retrouvé et il fait état d'un trésor. Il fait état d'un trésor particulier qui aurait été caché à l'époque du temple. Maintenant, les archéologues qui ont découvert cela, donc je te parle de ça quand on a découvert les rouleaux de la mer morte, à partir de 47, ils pensent qu'il s'agit d'une liste de trésors qui étaient cachés dans le deuxième Beth Amikdash. Mais il y a un archéologue américain qui dit pas du tout, c'est pas du tout une liste des trésors du deuxième temple. C'est une, pas une liste, c'est la carte d'un trésor et du trésor du premier temple. Et c'est quoi le trésor du premier temple ? Eh bien, il dit, dans le premier temple a été caché le Aaron Abrit. Donc, c'est la carte qui nous permet d'y arriver. Et il va fouiller un peu partout, de là où il pense que... Il va fouiller un peu partout de là où il pense que c'est. Il va fouiller pendant 15 ans sous la, le financement de son université aux États-Unis et il trouve rien, quoi. Je veux dire, tous les endroits où il a pensé que ça voulait dire ça, machin, il revient bredouille, quoi. Rien. Et au bout de 15 ans de financement, les mecs de l'université lui disent « Bon, coco, yalla ». Il va même s'auto-financer pendant 2 ans et puis finalement, après, il trouve rien, il trouve rien. Donc il rentre aux States et il est tout déçu. Seulement, quand il rentre, juste avant de commencer à, je sais pas, à faire d'autres travaux, il y a un monsieur qui vient lui rendre une petite visite. Il dit « J'ai vu ton travail là que tu as fait un peu partout. Bon, ça n'a pas marché. Hein, ça a pas... Non, ça n'a pas marché. » Il dit « Bon, bah, si tu n'as rien à faire là en ce moment, moi, j'ai un autre travail pour toi. Je voudrais que tu m'aides et que tu sois mon consultant technique. » Il dit « Consultant, mais de quoi ?» Il lui donne sa carte. Il dit « Bonjour, je m'appelle Steven. Steven Spielberg. Et je suis en train d'écrire un scénario avec un grand copain à moi, George Lucas. Et voilà, on voudrait que tu sois notre consultant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'archéologue en question, il s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, eh bien, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones. Et le premier film, ça va être Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui reprend plus ou moins ce qui a marqué sur ce rouleau de bronze, de cuivre, etc. Voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, finalement, à part ça, les Esséniens, ils n'ont pas laissé grand-chose. Donc, tout ça pour dire que la deuxième, le troisième grand piloug entre le peuple juif et le christianisme, c'est évidemment Korach. Et puis après, bah, il n'y aura plus vraiment de piloug pendant près de 800 ans, jusqu'à ce qu'on arrive au 10e siècle, et là, rebelote, repiloug. C'est quoi ce piloug ? Eh bien, ça va être entre Am Israël et les Caraïmes. Les Caraïtes. Alors, c'est qui ces Caraïtes ? Si tu vas sur le site officiel des Caraïtes, ils te disent qu'ils sont les descendants directs des Tzoukim. Shkoyer, Sheker Gadol. Lama, parce qu'on sait très bien d'où ils viennent. Ils viennent d'un bonhomme. D'un bonhomme qui s'appelait Hanan ben David. Et Hanan ben David, au Xe siècle, il s'est révolté contre les Yeshiva des Géonim. À l'époque, le peuple juif était gouverné par les musulmans, mais les rabbins, les Rashi Yeshivot à Géonim, qui étaient à Babylone, à Bagdad, ils avaient une certaine autorité sur le peuple juif. Et il y avait une tolérance pour la religion, mais à une condition, qu'il n'y ait qu'un seul chef pour la religion juive. Et ce chef, ça devait être le Rosh Hagola. Hanan ben David, il voulait être le chef aussi, parce qu'il était de la famille, mais il n'était pas exactement le Rosh Hagola. Et il voulait être le chef. Balagan, balagan, le sultan, il l'a mis en prison, il l'a condamné à mort. En prison, il rencontre un autre juif qui est condamné, mais pour un autre larcin, aucun rapport. Et le mec, il lui dit, mais attends, t'es bête ou quoi ? Le sultan, il a dit que toutes les religions pouvaient avoir un chef. T'as qu'à tout simplement dire que toi, t'es pas juif, que t'es autre chose. Et c'est à partir de là qu'il lance sans nouvelle idée en disant, mais moi, je suis pas... Nahon, le chef des juifs, c'est le Resh Galouda, mais moi, je suis pas le chef des juifs, je suis le chef des Caraïmes. Nous ne croyons que à la Torah écrite. Ça a l'air. Sauf que, bah, concrètement, en faisant cela, et en prenant parti officiellement contre le peuple juif, eh bien, ils sortent du clan d'Israël. Ils sortent du clan d'Israël au-delà du fait qu'ils sont extrêmement hypocrites. Parce que c'est pas vrai que les Caraïmes, ils croient que à la Torah écrite. Alors, les Caraïmes, ils font kippour. Comment ça se fait qu'ils font kippour ? Vous allez me dire, c'est marqué dans la Torah. Oui, c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire kippour le 10e jour du 7e mois. Seulement, comment tu sais quand c'est le Rosh Chodesh ? Dans la Torah, ce n'est pas marqué. Il a fallu Rashi pour t'expliquer que Rosh Chodesh, c'était quand on voyait la nouvelle lune. Hein? Donc, ils ont plein de problèmes internes, les Caraïbes. Bassof, les Caraïbes ont été rentrés, ramenés dans le peuple juif. Quand? Pendant la Shoah. Pendant la Shoah, ils ont été rentrés dans le peuple juif parce qu'ils en ont été sortis. Je vous explique, c'est un peu une phrase à double sens. Les nazis ne savaient pas si les Caraïbes, il y avait une communauté caraïte. Est-ce que les Caraïbes sont des juifs et donc à déporter et à tuer ou pas? Ils ont demandé à celui qui aurait dû devenir l'historien et le directeur du musée juif de Prague que les nazis voulaient construire après avoir tué tous les juifs, Meir Baladan, et ils lui ont demandé « Est-ce que les Caraïbes sont des juifs ?» Il a répondu « Non ». En cela, il les a sauvés, puisque les nazis ne les ont pas déportés. Mais en cela, eh bien, il les a fait quand même rentrer à l'intérieur du peuple juif après la Shoah, puisque les Caraïbes se sont vus comme étant de nouveau rentrés dans le destin collectif d'Israël. Donc, si vous voulez, les Caraïtes, c'était Korach, et peut-être que ça l'est plus, ou pas, j'en sais rien. Après, eh bien, à partir du 15e siècle, il va y avoir une autre scission. Une scission qui a bien failli devenir Korach, mais qui, heureusement, n'en est plus une, et qui était le Shem Shamaim. C'était la scission qui a commencé vraiment à se mettre en place entre Ashkenazim et Sfaradim. Au 15e siècle, il n'y a pratiquement plus de contact entre les rabbanim Ashkenazim et les rabbanim Sfaradim. Entre les peuples, enfin les communautés du peuple juif qui vivent dans les terres ashkénazes et dans les communautés juives qui vivent en terre séfarade. Quand je te parle en terre séfarade, je te parle après l'expulsion des juifs d'Espagne, hein, évidemment.
Il paraît que le Raphaïm et le Baal Shem Tov, ils correspondaient par l'être et aussi par...
C'est pour ça que je te dis, ça a bien failli, mais heureusement, 150 ans plus tard, ça se calme. Et c'est pour ça que je te dis, ça a bien failli, mais il s'est avéré qu'en fait, c'était juste, même pas une marloquette. C'était juste l'éloignement qui a fait qu'on ne se connaissait plus et qui a fait qu'on a failli se comporter comme étant des peuples différents. Mais Baruch HaShem, c'est bon, ça c'est réglé. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que Baruch HaShem, ça c'est réglé. Ashkenaz, Sepharad, Zelo Meshane, c'est Menachem Begin qui nous l'avait dit lorsqu'il a fait son discours en parlant de Meir Feinstein et Moshe Barazani. Vous connaissez tous ce discours. Lorsque, juste avant les élections de 1981, eh bien, le candidat d'opposition voulant récupérer les voix ashkénazes, eh bien, un de ses soutiens, Doudou Topaz, va se moquer des Sfaradim. Et à ce moment-là, Begin va prendre la parole le soir même en disant « J'ai entendu Doudou Topaz parler des Sfaradim, il les a appelés Tchirtchirim. » Il dit « Je ne sais même pas ce que c'est que ce mot. » Et moi, je vais vous raconter l'histoire de Meir Feinstein et Moshe Barazani, qui étaient ces combattants du Hetzel, qui ont été faits prisonniers lors de l'attaque de la station de gare de Jérusalem. Ils ont été capturés par les Anglais et ont été condamnés à mort. Et finalement, ils ont décidé de se donner la mort par la grenade qu'ils avaient fait passer dans une orange pour ne pas servir d'exemple pour les Anglais. Et à ce moment-là, Begin, avec sa gestuelle comme ça, il fait « Moshe Barazani, aya Yehudi mi Irak, Meir Feinstein aya Ashkenazi. » Ashkenazi, Iraki, Yehudim, Achim, Lochamim. Donc voilà, on a réglé le problème Ashkenaz séparade, tout va bien, Baruch HaShem, c'est évident que c'est un seul peuple. Seulement, tu parlais des lettres entre le Rachaim et le Baal Shem Tov, qu'en est-il de ce prochain pilug entre les Hasidim et les Misnagdim, entre le Baal Shem Tov et ses Talmidim et le Gaon de Vilna et ses Talmidim? Ouah! Eh bien ça, c'est exactement l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. C'était une marloquette extrêmement violente, mais elle était le Shem Shamaim. C'est-à-dire, tout le monde parlait Bet Midrash. Violemment! Mais on avait les mêmes références. Si bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Hasidim, Mitnagdim, ça ne veut plus rien dire. Tout le monde comprend que Zetora ve Zetora. Et c'est ce qui permettra au Rav Tzvi Yehuda Kouk de nous expliquer que le rôle que remplissaient les Mitnagdim et celui des Hasidim était différent. Le rôle des Mitnagdim, c'était la Kdusha au Bet HaMidrash Pnima, alors que le rôle des Chassidim, c'est la Kdusha qui sort du Bet HaMidrash. C'est-à-dire, le Rav Tzvi Yehuda disait que les élèves du Gaon de Vilna, c'était le Mikdash de Jérusalem, où la Kdusha allait à l'intérieur des murailles, alors que les Chassidim, c'était le Mikdash de Shiloh, où la Kdusha, elle s'étend à l'extérieur de Shiloh. Donc là, on voit une machloket qui Baruch Hashem et le Shem Shamayim. Et à partir du 19e siècle, il y a une nouvelle machloket, un nouveau piloug, cette fois entre les datim et les chilonim. Tout d'un coup, le peuple juif est devenu chiloni, et donc machloket, datim, chilonim. Est-ce que c'est une machloket qui a le même langage ou pas? Eh bien oui, seulement c'est plus le langage du Beit HaMidrash. Mais c'est un autre langage qui est commun aux deux, à savoir le sentiment d'appartenance au peuple juif. Qu'est-ce que dit un bon juif de Tel Aviv, bien de gauche et bien anti-religieux? Il dit, tu ne vas pas m'apprendre à moi comment être juif. Tu n'as pas le monopole de comment on doit être un juif. Bien qu'il ait totalement tort, ça fait chaud au cœur de voir à quel point il se sent juif. Et ça le révolte quand on dit que ce n'est pas un bon juif. Il a raison, parce qu'il n'y a pas de bons et de mauvais juifs. C'est-à-dire qu'il est fondamentalement juif. Et donc, le dialogue, c'est le dialogue de l'appartenance au clan Israël. Le Haredi aussi, il se sent appartenir au clan Israël. Lui, il se sent appartenir au peuple juif par la Torah. Certains se sentent appartenir au peuple juif par la Shoah et pas par la Torah. Ça veut dire, ah ben, le langage est le même. C'est pour ça qu'entre Datim et Chilonim, il n'y a absolument pas de séparation maoutite. Zéam Israël Echad. Zéam Israël Echad. Et donc, on ne peut pas parler ici de Machloket, de Korach, évidemment. On est un seul peuple. Par contre, la dernière Machloket en date, c'est la Machloket actuelle. C'est une Machloket qui est très dangereuse parce qu'elle a toutes les... On est dedans, donc c'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions. Mais elle a tous les marqueurs pour être une machloket koratienne, korachienne, et donc pour finalement voir la séparation complète. Je parle du monde juif traditionnel face au monde libéral. Et c'est un marqueur qui est terriblement difficile. En France, pas beaucoup. En France, je n'ai pas vraiment de crainte pour le judaïsme libéral de France, pour deux raisons. Un, les juifs de France sont trop séfarades pour être vraiment libérales. Donc ça me calme quand même. Et deux, alors que d'habitude, je ne suis pas tellement favorable à ce qui s'est passé avec le consistoire et Napoléon et tout ça, le fait est que le fait qu'on soit des Français de confession israélite fait que il y a cette culture des Juifs de France qui est les Juifs de France. Et donc, il y a cette histoire commune à ce niveau-là qui fait que même le mouvement MGLF, le mouvement juif libéral de France, a mis le mot juif dedans. Par contre, aux États-Unis, c'est autre chose. Le mouvement Reform aux États-Unis, qui, je le rappelle, les réformés aux États-Unis, c'est les charédim des libéraux. Parce que tu as des libéraux quand même vachement plus libéraux que les libéraux. Tu as les reconstructionnistes, par exemple. C'est pas mal, les reconstructionnistes. C'est si tu aimes le couscous, tu es juif. Si tu aimes le gefilte fish, tu es juif. C'est autre chose, hein, c'est un autre délire. Et j'ai bien peur que le judaïsme réformé, particulièrement américain, on parle quand même de plusieurs millions de personnes, soit sur la pente de la coratitude et qu'on finisse par se séparer véritablement. Parce qu'il n'y a plus de langage commun. Il n'y a plus la Torah, évidemment, ils l'ont rejetée. Il n'y a plus le sionisme, le monde libéral américain n'est pas du tout favorable véritablement au sionisme. Il n'y a plus vraiment l'appartenance au peuple juif. Ils sont beaucoup plus américains que juifs maintenant. C'est caché. Parce que c'est de cela qu'on parle. Korach veut se scinder du peuple juif. C'est soit c'est moi le chef, soit je deviendrai le chef ailleurs. En fait, Korach a servi de tavnit à plein de gens. Mais de qui, lui, il a pris son inspiration ? Il a pris son inspiration de... Vous savez de qui ? De Ashour. Ashour, c'est celui qui était un des constructeurs de la tour de Babel, mais qui a décidé de sortir de la construction parce qu'il a vu que ce n'était pas bien ce qui se passait là-bas. Pourquoi faire ? Pour construire Nineveh. C'est-à-dire, il sort de Babylone pour faire Nineveh à la place. C'est-à-dire qu'il voulait être le chef à la place de Nimrod, il n'a pas réussi, donc il est parti pour devenir le chef de son propre clan. Et c'est de cela qu'on parle. Korach, et c'est pour ça que la paracha de Korach est si importante, elle est là pour nous rappeler quelle est la ligne rouge. La ligne rouge qu'on ne veut pas dépasser, c'est lorsqu'il y a scission irréparable au sein du peuple juif, à tel point qu'on n'est plus ensemble. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de marloqueter très fort, à condition qu'on fait partie de la même équipe. Korach a décidé de sortir de cette équipe. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour que notre équipe, qui a déjà été tellement, tellement réduite par les persécutions de l'exil, eh bien, nous devons tout faire pour que cette équipe ne se scinde pas en deux équipes, pour que l'événement Korach ne se reproduise plus Bazman Hazeh. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de date à la paracha de Korach, parce qu'elle peut se reproduire tout le temps. À nous de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas tout le temps. Par rapport à ta question, que penser des modernes orthodoxes ? Ils sont orthodoxes. Ils sont orthodoxes. Ils ont juste un petit problème avec ils sont plus modernes qu'orthodoxes. Mais ils sont orthodoxes. C'est-à-dire que... Oui ?
Et que penser du... Il y a eu un débat, en fait, mais je n'ai pas suivi le contenu entre le Rav Melamed et la...
Ah bah oui, j'ai vu quelques phrases, je n'ai pas suivi non plus tout le débat. Zetov, pour deux raisons. Un, pour tout ce qu'on vient de dire pendant le cours. Et une deuxième raison, c'est dommage d'ailleurs que ce soit le Rav Melamed qui ait fait ça et pas un Rav francophone. C'est très important pour une deuxième raison, parce que Madame Delphine Horwiller est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, est quelqu'un qui présente bien, est quelqu'un qui est en train de devenir une figure du peuple juif chez les goïms, pas au sein du peuple juif, pas au sein de la communauté juive en France, mais c'est elle, très souvent, qu'on va plus inviter que le rabbin Corsia dans des plateaux de télévision, dans des chaînes de radio, quand il se passe un truc en France. Et donc, eh bien, c'est fondamental d'avoir une réponse à donner. Encore une fois, elle dit pas mal de bêtises, mais elle dit aussi pas mal de choses qui sont vraies, qui sont argumentées. Donc, il faut être capable d'argumenter. Et je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui se cacher derrière le fait qu'on veut punir le monde libéral et donc on ne veut pas lui parler. C'est ça ? Et par rapport à ce que tu disais à Alex, mais il avait des arguments, Korach, ancêtre de Shmuel, etc. Nahon, c'est ce que dit Rashi. Korach chez Pikea Chaya, Mara'a Lishtutzo. De dire quoi ? De dire que Kol Haeda Kulam Kedoshim. Mais, si tu veux, je t'expliquerai en privé. Mais comme ce n'est pas du tout le sujet de mon cours de ce soir, de quel était l'argument de Korach, Kol Haeda Kulam Kedoshim, je dirais simplement qu'effectivement, Shmuel a réussi là où Korach a échoué, puisque Shmuel a réussi à centraliser tous les pouvoirs dans sa personne, mais c'est parce que le moment l'exigeait. Pour ce qui est de son argument Kol Haeda Kulam Kedoshim, le Rav Kook a répondu c'est lo nachon, pour la simple raison que Kol Haeda Kula Kedosha, au niveau du klal, mais pas au niveau des individus. Tov, voilà, Zéou, Chazak ou Baruch.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci beaucoup. Merci.
Kol tov.